nous adresse. Paul s'adresse aux Éphésiens ici et il va leur dire, voilà, Dieu vous a appelé, il vous a adressé une vocation. Vocation, hein, c'est, ça veut dire appelé, c'est le fait d'avoir reçu un appel. Vocation, dans la langue française, c'est un mot qui est de la même famille que le mot vocal. Hein, quand on appelle quelqu'un, on fait entendre sa voix et c'est pour l'appeler qu'on le fait. Et Dieu, effectivement, nous a appelés en Jésus-Christ. Et bien sûr, cet appel, eh bien, il ne reste pas sans produire dans notre vie un prolongement, des fruits, un appel béni. C'est une magnifique vocation. Et bien, dans l'Épître aux Éphésiens, entre autres, nous trouvons toutes sortes de caractéristiques de cet appel et de ce qu'il produit dans notre vie. De la même manière que Paul a un jour été appelé par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. On se souvient qu'il allait porter ses lettres, il était porteur de ses lettres qui lui permettraient de persécuter les chrétiens de la ville de Damas. Et c'est le Seigneur qui l'a appelé. Et toute sa vie a été radicalement bouleversée. Plus jamais il n'a été le même après ce chemin de Damas d'un homme persécuteur, violent, quoique d'une certaine manière sincère dans sa pratique religieuse, bien il est devenu un apôtre du Christ, donnant sa vie, son temps, sacrifiant son aspiration, ses désirs, ses choix sur l'autel de Dieu pour répondre à Jésus-Christ en premier lieu et aussi par amour pour l'Église et les Églises que Dieu lui a données à paître. Alors nous ne sommes pas nécessairement appelés à être apôtres, ni même prédicateurs de l'Évangile, mais Dieu nous appelle. Il nous a appelés, pour beaucoup d'entre nous, nous avons entendu son appel dans notre conscience, nous y avons répondu. Peut-être y a-t-il ce matin au milieu de nous un jeune homme, une jeune fille, un homme ou une femme qui n'a pas encore répondu à cet appel. Dieu vous appelle par votre nom, Dieu vous aime. Voyez, Paul parle du grand amour dont il nous a aimés. Alors nous pouvons nous en parler avec nos mots, mais seul l'Esprit de Dieu peut vous révéler l'amour dont Dieu vous aime. Oui, qui que vous soyez, quel que soit votre parcours, ce matin, Dieu vous aime et à cause du grand amour dont il vous aime, il vous appelle, il vous adresse aussi une vocation. Et ce matin, répondez-y par la foi. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, ce matin, venez à Christ, ouvrez-lui tout votre cœur, nous l'avons entendu dans un don spirituel. Croyez dans le pardon des péchés qu'il vous apporte, car ce pardon est pour tous, c'est une grâce. Si le salaire du péché, c'est la mort, bien le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ pour toi, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Seigneur. Alors revenons sur cet appel que Dieu nous adresse, sur cette vocation. Je vous exhorte, dira Paul, moi, prisonnier dans le Seigneur, voyez, quoique chargé de toute l'autorité que Dieu lui a donnée en tant qu'apôtre, il ne fait pas valoir cette autorité comme s'il avait besoin de la mettre en avant, simplement dire, moi, je suis prisonnier, je suis à Rome, mais je vous exhorte. Vous qui appartenez à Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu vous a adressée. Quelles sont ces caractéristiques alors de cet appel ? Bien, la première, c'est que la vocation de Dieu, l'appel de Dieu, il nous est adressé par grâce. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas mérité. Ce n'est pas nous qui, un jour, avons décidé, voyez, de dire à cause de mes efforts, à cause de ce que je pense bon, je vais me mettre à suivre Dieu parce que je suis parvenu à la conclusion que c'est ce qu'il me fallait faire, je vais me mettre à suivre le Seigneur. Non, non. Mais Dieu nous a appelés et il nous appelle dans sa grâce. C'est sa faveur qu'il nous adresse de manière imméritée. On peut penser un peu à l'appel d'Abraham, voyez ? Vous savez que Josué, quand il parlera au peuple d'Israël, bien il dira, Abraham, nos pères, Terach, Nakhor, étaient de l'autre côté du fleuve, ils servaient d'autres dieux. Et bien sûr, on suppose qu'Abraham, lui aussi, avant d'avoir entendu l'appel de Dieu, servait d'autres dieux dans son ignorance, dans les ténèbres du paganisme. Et que nous est-il dit ? Bien, il nous a dit que Dieu parla à Abraham. Quelle grâce ! Vous voyez, ce n'est pas Abraham qui s'est dit « je vais me mettre à chercher Dieu », mais c'est Dieu qui a parlé à Abraham. « Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et viens dans le pays que je te donnerai. » Et ça a été ce qui a changé la vie d'Abraham. C'est la grâce de Dieu. Nous n'avons fait aucun effort pour le recevoir. Il n'y a aucun mérite qui nous a ouvert la porte pour cet appel, mais oui, c'est le Seigneur. Vous voyez, je cite ce verset de la seconde épître à Timothée, « Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un appel, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Ça nous dépasse. Vous voyez, la grâce de Dieu, elle était formée, son projet de nous sauver existait avant même que la terre soit formée. C'est ce que Paul rappelle dans les passages que nous avons lus. Ça dépasse notre intelligence. Certains théologiens s'y sont perdus. Les chrétiens se sont parfois disputés sur cette réalité. Mais Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrit dans l'Écriture infaillible et inspirée que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, ça c'est sa grâce, ça n'a rien à voir avec nous. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par le Seigneur. Vous voyez où est le sujet de se glorifier, où est le mérite, il n'y en a aucun. Ça produit deux choses en nous, ça. Hein, ça nous humilie, parce que si nous avons été appelés pour le salut, ça n'a rien à voir avec ce que nous étions, ce que nous sommes. Nous méritions la condamnation. L'appel que Dieu nous a adressé, nous l'avons reçu alors que nous étions sous la condamnation juste de nos péchés. On peut même, voyez, réfléchir, regarder autour de nous et se dire, oui, il y a des gens qui mènent une vie meilleure que celle que j'avais vécue, que celle que j'avais menée, et ce n'est pas du tout à cause de mes mérites hein, que Dieu m'a adressé son appel. Donc ça nous humilie. Et puis en même temps, quelle confiance, quel sujet d'assurance. Si Dieu nous a appelés par sa grâce, si c'est son dessein, bien Dieu sera capable de me soutenir. Malgré ma faiblesse, malgré ce qui demeure encore tordu en moi, que je vois encore se manifester, j'ai bien besoin que Dieu agisse en moi, qu'il me change encore, qu'il m'amène à progresser. Mais, vous voyez, ce Dieu qui m'a appelé par sa grâce, il m'aidera et il t'aidera aussi, mon frère, jusqu'au bout. Mon frère ou ma sœur, bien sûr. Et puis, cet appel, cette vocation, elle est aussi accompagnée du pardon de nos péchés. Vous voyez, c'est ce que Paul rappelle, nous l'avons lu dans le chapitre 1er. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est ce qu'il avait accordé aussi à Abraham. Hein? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Abraham, le père des croyants, après avoir été appelé, a connu Dieu et son cœur était pécheur comme le nôtre. Tous les hommes sortis d'Adam en Adam sont pécheurs, déformés, tordus par le péché, produisent le mal. Mais sans que Abraham produise quelques œuvres pour se racheter, voyez, il nous a dit qu'il crut à Dieu, il eut confiance à Dieu, et Dieu le lui a imputé à justice. C'est-à-dire qu'il a été déclaré juste devant Dieu, Dieu l'a accepté, Dieu l'a reçu, Dieu l'a agréé. Ce que le péché avait brisé a été réparé, une réconciliation a eu lieu, à tel point que le Seigneur lui-même, dans l'Évangile, nous dira que nous verrons Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, voyez, assis avec lui dans le royaume de Dieu. Abraham était réellement sauvé, vous voyez. Et nous aussi, le pardon des péchés, c'est extraordinaire. Nos péchés ne sont plus retenus contre nous. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit par lui le pardon des péchés. Et le résultat, la réalité, la conséquence, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu, comme nous le faisons ce matin, pour lui rendre notre culte. Croyons qu'il l'agrée. Chez nous, on peut s'approcher de Dieu, l'invoquer, le prier, s'adresser à lui, même parfois au prix d'un combat. Mais c'est une réalité. Dieu agrée nos prières en Christ. En lui, en Christ. Nous avons la rémission des péchés. Cette vocation, une troisième pensée, elle est accompagnée d'un changement de position devant Dieu. Changement de position, radical. Nous avons lu dans le deuxième passage qu'autrefois nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ, nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Voilà, non seulement Dieu nous a pardonnés, mais si nous avons cru dans le Seigneur, si nous l'avons reçu comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et notre Maître, eh bien croyons que nous sommes en lui. Avez-vous remarqué dans ce chapitre premier, comme cette expression revient sans cesse, en lui, en Christ, en lui, en lui, en lui, nous avons tout pleinement. L'une des difficultés dans les églises locales du 1er siècle était que parfois les chrétiens, à cause de leur origine sociale, à cause de leur parcours, à cause de toutes sortes de circonstances, à cause des clivages qui marquaient leur société, comme notre société aussi est marquée parfois par des différences, des clivages, des divisions, eh bien ils établissaient toutes sortes de distinctions. Certains disaient « moi je suis juif et toi tu es grec ». L'autre, moi je suis libre et toi tu es esclave. Donc ça voulait dire donc je suis supérieur à toi dans l'Église. D'autres disaient moi je suis savant, et toi tu es ignorant. Et puis d'une certaine manière, certains comprenaient mal la différence de statut devant Dieu qu'impliquait le fait d'être un homme ou une femme. Vous voyez ça dans les épîtres. Et Paul dira en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni savant ni ignorant, ni homme ni femme, dans ce sens-là. Mais tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, en Christ. En Christ. En réalité, il y a une seule différence, il y a une seule division parmi les hommes. Eh bien, c'est celle-ci. Il y a ceux qui sont encore en Adam. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont encore marqués dans leur vie, dans leur pensée, dans leur être tout entier du péché d'Adam. Et puis il y a ceux qui sont en Christ. Et Christ est venu, n'est-ce pas, pour que nous soyons en lui, que nous ne soyons plus en Adam. Parce qu'il est dit en Adam, tous meurent. C'est important de comprendre ça. La Bible insiste beaucoup. D'abord, ça établit le fait que le récit de la création, puis le récit de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève est rigoureusement authentique. Dieu mentirait-il ? Non. Croyons que la révélation de ce qui s'est passé, comme tout ce qui est écrit, est rigoureusement authentique. Et si vous enlevez cela de la Bible, comme le font certains de ceux qui professent être chrétiens, vous voyez, qui disent qu'il s'agit là d'une légende, d'une allégorie, enlevez cela de la Bible et vous enlevez le cœur de l'Évangile, vous voyez ? Eh oui, car il nous a dit que Christ est venu comme le second Adam. Le dernier Adam, le deuxième homme. Dans quel sens ? Adam, comme Jésus-Christ, nous représente devant Dieu, en quelque sorte. Et lorsqu'Adam a péché, vous voyez, il a entraîné avec lui l'ensemble de l'humanité. Mais lorsque Christ est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est glorieusement ressuscité d'entre les morts, bien c'est toute l'humanité, celle qui croit en lui, on pourrait dire toute l'Église, n'est-ce pas ? Et quand il ressuscite, c'est aussi toute l'humanité qui croit en lui, c'est aussi toute l'Église qui les ressuscite pour la réconcilier, nous rapprocher, rétablir ce qui avait été brisé entre nous et Dieu. Il est notre représentant. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tenez, prenez cette image. Voyez, si je ne sais pas moi, les États-Unis déclaraient la guerre à un pays, ça se passe souvent entre deux hommes. Vous voyez, c'est le président des États-Unis et le chef de l'autre État qui interviennent, qui parlent, qui déclarent. Mais ça a une incidence sur tout le pays. Et tous ceux qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans le deuxième pays, vont porter les conséquences de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Il en est ainsi de Christ. Vous voyez, parce qu'il a fait lui seul, bien tout. L'Église, en lui, en reçoit les conséquences bénies. De la même manière que quand Adam a péché, c'est l'humanité tout entière qu'il portait déjà en lui, en germe, et en a subi les conséquences néfastes. Nous sommes en Christ, bien-aimés. Il ne faut pas l'oublier. Serrons cette réalité dans notre cœur, nous avons en lui une nouvelle position. Il nous a délivrés de la condamnation de la loi. En Christ, nous sommes délivrés de la condamnation de la loi. Mais oui, la loi de Dieu est bonne, elle est parfaite, mais personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Parce que la loi était brisée, et nous l'avons transgressée. Vous voyez, quelqu'un dira, si peu. La parole de Dieu dit que celui qui transgresse un seul des commandements de la loi de Dieu se rend d'une certaine manière coupable de tous, comme quand on brise un seul maillon d'une chaîne, c'est la chaîne tout entière que vous cassez. La loi de Dieu, si elle est transgressée une fois, elle est transgressée, c'est un état de péché dans lequel nous étions. Et nous étions justement condamnés par cette loi, comme notre conscience en rendait témoin de gage. Mais béni soit Dieu, en Christ, nous sommes délivrés de la condamnation de la loi. Il n'y a plus, nous l'avons entendu ce matin aussi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Quel soulagement pour le cœur, pour la conscience. Plus aucune condamnation, nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que nous, un chrétien ne fait pas tous ses efforts. Bien sûr, il y a des efforts. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne fait pas tous ses efforts pour conserver la loi morale de Dieu, ses commandements, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il n'est plus sous la loi. Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la condamnation. Eh oui, Paul le rappelle, hein, aux Galates, il dira que tous ceux qui sont sous les... Tous ceux qui cherchent à être justifiés par les œuvres de la loi sont sous la malédiction, parce qu'il est écrit « maudit ». Et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. La Bible dit que nous avons été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez ce prisonnier dans sa cellule. Il a été condamné, je ne sais pas, 30, 40 ans de prison pour un crime, un délit, pour un forfait qu'il a commis. C'est juste. Une juste condamnation lui a été appliquée. On peut imaginer que, je ne sais pas, ce détenu tombe malade et, malgré tous les efforts déployés pour le soigner, il meurt. La loi qui le condamnait ne peut plus rien pour lui ou contre lui. Il est mort. L'Écriture nous affirme que nous avons, si nous sommes en Christ, si nous sommes repentis de nos péchés, si nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous ne sommes plus en Christ sous le règne de la loi. Loi qui non seulement indique la voie de la justice, mais applique une condamnation à celui ou celle qui ne la respecte pas en tout point. Nous sommes délivrés de cette loi. Et maintenant nous servons, eh bien, c'est écrit, non plus selon la lettre, mais en nouveauté, n'est-ce pas, de vie, par l'Esprit. Nous avons été régénérés. Nous nous efforçons de conserver les commandements de Dieu. Ils sont bénis. Nous les aimons. La loi de Dieu est bonne. Mais nous nous efforçons maintenant de les conserver, non plus pour mériter le salut, non plus pour être sauvés, mais parce qu'il nous a rachetés. Et en ceci, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Et si un chrétien bien défaille, s'il lui arrive de trébucher, bien, il ne meurt pas à nouveau. Il ne meurt pas à nouveau, béni soit Dieu, parce que s'il en était ainsi, personne n'arriverait au terme de sa course. Non, non, il nous a dit que si nous marchons, n'est-ce pas, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, être dans la lumière, ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire être impeccable, mais ça veut dire accepter en permanence le verdict de la parole de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu dans notre conscience. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dira Jean, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste s'est donné lui-même pour nos péchés. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ça, être délivré de la condamnation de la loi. Puis être délivré de la condamnation de la loi, c'est aussi être délivré de l'esclavage de la loi. Vous voyez, sous la loi, la conscience de l'homme l'accable sans pouvoir lui ouvrir une porte de salut. Et non seulement, n'est-ce pas, il est encore sous la condamnation de ses anciens péchés, mais le voilà impossible de pratiquer le bien qu'il veut. C'est ce que Paul décrira. Hein, il dira, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et Christ nous a délivrés, vous voyez, de ce cercle vicieux. Nous ayons délivré de la condamnation de la loi par son bon esprit, nous affranchis aussi de son pouvoir, du pouvoir du péché. Vous voyez, ce qui nous était impossible autrefois, bien aujourd'hui, Et Christ l'accomplit en nous. Il y a des choses desquelles on ne pouvait pas se dégager, on ne pouvait pas se libérer par nous-mêmes, mais Christ nous en a affranchis. Et quand ça nous colle encore à la peau, ça arrive. C'est pourquoi dans les Épîtres, à plusieurs reprises, Paul dira « Dépouillez-vous du vieil homme, renoncez, faites mourir les œuvres de la chair. » Eh bien, le fait de nous souvenir, de penser, de prendre conscience là que nous sommes en Christ, ça nous donne la force. Ça nous donne la force de marcher comme Dieu le souhaite. Béni soit Dieu pour tout ce que nous avons dans le Seigneur, de tout ce que nous avons reçu dans sa vocation. Allez, une nouvelle pensée. La vocation de Dieu, elle est accompagnée par un changement de nature. Voyez, nous sommes son ouvrage. Ça ne veut pas dire, nous l'avons dit, que nous soyons parfaitement accomplis, que nous soyons arrivés, qu'il n'y ait plus de progrès. Mais ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en nous. Il y a un changement radical. Il y a des désirs, il y a des aspirations qui sont en nous et qui n'y étaient pas auparavant. Malgré, peut-être, notre bonne moralité, c'est possible, pour certains, pour beaucoup, peut-être, pour plusieurs, en tout cas, bien, il y avait quand même en nous un principe de mort qui était là, dominant. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, il a déposé en nous ce que la parole de Dieu appelle la semence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure en nous. Et on a envie de plaire à notre Père céleste. Ça, ce n'était pas possible avant. Ça fait partie de son appel. Cette vocation est accompagnée d'une espérance bénie. Vous voyez, l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, ce n'est pas, là encore, une illusion, ce n'est pas une chimère, c'est la réalité. Nous marchons ensemble, dit le cantique, vers ce beau pays. Béni soit Dieu, le meilleur est devant. Il y a une espérance céleste, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, le ciel, la gloire de Dieu. Nous en avons parfois un avant-goût. Le Saint-Esprit le dépose, ça, dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. La Bible parle des arts de l'Esprit. Les arts, c'est ce que vous donnez, une partie d'une somme que vous devez à quelqu'un que vous vous êtes engagé à lui donner. Quand vous vous donnez les arts, vous lui donnez les arts, c'est en quelque sorte le signe que la somme totale lui sera bien versée. Bien par son Esprit, Dieu verse en nous parfois les arts de l'Esprit. Nous avons un avant-goût du ciel. Dans une réunion, ça ne vous est jamais arrivé ? Vous venez fatigué, harassé, troublé. Puis dans cette réunion-là, Dieu nous parle. Il y a quelque chose qui se passe. Et on sort, et parfois les chrétiens même ne disent rien. Ils gardent ça jusqu'à leur domicile. Ils repartent en voiture. Voilà, il y a cette atmosphère céleste. Ce sont les arts de l'Esprit. Ça peut arriver dans notre chambre. Voilà une vocation. La vocation est accompagnée par une action de la puissance de Dieu envers nous. La puissance de Dieu qu'il a déployée envers nous en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je cite le chapitre 1er. Puis aussi en nous, à celui qui peut, par la puissance qui agite en vous, faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. À lui sur la gloire, dans l'Église au siècle des siècles. Amen. Et puis une vocation à servir à la gloire de Dieu. Nous a appelés pour ça. Notre vocation n'est pas tellement une vocation à être heureux, quoique le fait d'appartenir au Seigneur, c'est la plus belle voie de bonheur et la seule qui existe. Mais le but de la vocation céleste, nous l'avons lu, c'est pour que nous servions à la louange de sa gloire. Ça vient de lui et ça repart vers lui. Il est l'alpha et l'oméga. Et le fait de prendre conscience que Dieu nous a appelés à servir à la louange de sa gloire, mais c'est bon ça, parce que ça nous délivre parfois de nos préoccupations, de nos désirs, parfois aussi de nos déceptions, parfois aussi de nos misères, de nos abattements, de nos découragements. Et ça nous amène à nous souvenir que c'est lui le plus important. Et on reprend courage, parce que lui ne change pas, et sa gloire, son dessein, il le mènera parfaitement à exécution. Alors très rapidement, pour terminer, voilà, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, écrira Paul depuis sa prison à Rome aux Éphésiens, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Il y a donc cette vocation, elle doit produire une marche. Et finalement, quand on lit les épîtres de Paul, et l'épître aux Éphésiens en est un exemple absolument patent, il y a souvent ces deux parties. Il y a toute une partie qui nous révèle ce que Dieu a fait en Christ, pour son Église. Et Paul détaille, il prend plaisir à détailler tout le fonctionnement, le dessein que Dieu a manifesté dans ce plan de salut. Et puis, il y a toujours une deuxième partie, c'est jamais, vous voyez, Paul était un homme instruit, il était avant tout un homme inspiré, mais ce n'est jamais stérile, ce n'est jamais un enseignement qui reste au niveau de la réflexion de la tête, ça produit toujours là une conséquence pratique. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Alors, la marche, ça comporte plusieurs idées. Il y a d'abord l'idée d'un mouvement, d'un progrès. Quand on marche, on avance. Et oui, c'est vrai qu'il y a toute une vie de progrès. Il y a, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, des progrès qui ont été faits par la grâce de Dieu. Et il désire que nous en fassions encore. Que Dieu les accomplisse en nous, les amène à se réaliser. La marche comprend une idée d'exercice. Pour marcher, il faut faire un effort. Et là aussi, eh bien c'est vrai. C'est vrai pour nous. Il y a un effort à faire pour lui plaire, pour chercher Dieu, pour nous appliquer à pratiquer ce qui lui est agréable. La marche, c'est une idée de constance. Ailleurs, dans l'Écriture, la vie chrétienne est comparée à une course. C'est Paul encore qui le dira. Je cours pour tâcher de le saisir. Mais ici, ce n'est pas la course, c'est la marche. La marche, par rapport à la course, nous parle de stabilité. De stabilité. L'important, c'est d'aller jusqu'au bout. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, marche ce matin, demeure en marche avec celui qui t'a appelé. Marche pour le Seigneur. Ça ne t'arrête pas. Et si tu es tenté de le faire, souviens-toi de l'appel qu'il t'a adressé et qu'il t'adresse. La marche, une idée de volonté qui est mise en œuvre. Pour marcher, il faut vouloir. Personne ne marche contre son gré. Voyez ? Et ici, cette marche, elle est volontaire. C'est-à-dire que Dieu accomplit les choses en nous, mais c'est l'exercice de notre volonté qui est mise en œuvre pour lui plaire. Il y a une idée de combat aussi, c'est une marche militaire à laquelle Dieu nous appelle. Dieu dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, revêtez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, c'est un combat, c'est vrai. C'est un combat. Et puis, la marche, elle fait partie intégrante de notre vie. Vous avez remarqué que si on ne marche pas, eh bien, c'est invivable. Il y a hélas des hommes et des femmes qui, pour des raisons diverses, sont privés de l'usage de leurs jambes. C'est un drame, vous voyez. Et la marche, elle doit faire partie de notre vie tout entière. Et voilà pourquoi, eh bien, si vous relisez l'Épître aux Éphésiens, pour expliciter un peu cette marche à laquelle Dieu nous appelle, Paul montrera que marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée, c'est d'abord dans l'Église. Pourquoi d'abord dans l'Église? Parce que l'Église, elle épouse, elle est la fiancée. Elle deviendra pour toujours, au jour de la grande consommation, l'épouse de Christ. Et c'est pour ça que c'est le premier, c'est le plus important. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et Christ aime l'Église. Christ aime l'Église. Et dans l'Église, Paul dit oui, marchez en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres. Parfois, là aussi, ça demande un effort, mais dans la grâce de Dieu, c'est la plus belle des choses. Avec amour, c'est ça la clé. Vous efforçant de, non pas de créer, mais de conserver l'unité de l'esprit. Pourquoi ? Il y a un seul esprit. Et il faut conserver, non pas créer, c'est pas l'œcuménisme, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est notre part. Veillez à ce que, dans mon cœur, tout d'abord, et dans mes relations avec mes frères et sœurs, ces bien-aimés du Seigneur, eh bien, il y ait cette paix qui arbitre dans nos cœurs. Voilà, ça c'est marcher de la vocation, de manière digne de la vocation qui nous est adressée. C'est vrai aussi dans le domaine de la famille, c'est très important aussi ça pour Dieu la famille. Il est le Père, ne l'oublions pas, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alors, Paul adresse des recommandations aux épouses, aux époux, aux enfants et aux époux en tant que parents. Voilà, je vous laisserai les redécouvrir. Mais là aussi, la grâce de Dieu veut se manifester. Ça aussi, ça fait partie de la marche. Et Dieu est là, dans la famille. La puissance qui agit en nous, bien, elle se manifeste aussi dans la famille. Et si, vous voyez, quelqu'un était aux prises avec des difficultés, bien, confiez-vous dans le Seigneur. Recevez sa puissance et sa force. Parce que dans ce domaine-là aussi, béni soit Dieu, il veut nous aider. Puis enfin, même dans le domaine du travail. Alors c'est vrai, Paul utilise les mots de serviteur et de maître, mais bien sûr, on va transposer ça, nous, dans notre XXe siècle, dans nos pays occidentaux, la plupart du temps, au domaine professionnel auquel nous sommes habitués. Et en tant qu'employeur, que patron, ou qu'employé, ou qu'ouvrier, bien, il y a une attitude qui sied au Seigneur. C'est tellement difficile, parfois, de garder une bonne attitude. Vous voyez, soumis aux pressions, soumis au raisonnement du monde. Parfois, ça nous emporte si on ne veille pas. C'est tellement fort, c'est tellement omniprésent dans le lieu de travail, là, de manière très concrète, que si on ne veille pas, on peut se laisser emporter, on peut faire comme tout le monde. Non. Paul dira, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. N'oubliez pas ce que Christ a fait de vous. N'oubliez pas. Non pas pour mériter votre salut, non pas pour tenter de gagner le ciel, c'est pas ça, mais parce qu'il vous a racheté, parce que vous êtes en Christ, ses enfants, soyez ce que vous êtes. Mettez-le en œuvre au travail, que ça se voit, que la grâce qui habite en vous, veillez à ce qu'elle se manifeste aux yeux des perdus, qui ne comprendront pas grand-chose, sans doute, parfois ça va même les irriter, parfois même c'est écrit, ils vont vous calomnier, mais qu'ils voient. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que le jour où Dieu les visitera, ils le glorifieront. Voilà. Marchez d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Béni soit Dieu pour son appel. Béni soit Dieu pour sa vocation. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il a mis en œuvre en Christ et tout ce qu'il met encore en œuvre en Christ pour nous. Que sa grâce demeure sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je propose qu'on se recueille quelques instants et que l'on rende grâce au Seigneur. Merci.